Bonjour bien-aimés, nous sommes arrivés au terme presque d'une année, en tout cas en termes de dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année. Comme le disait un personnage biblique dans l'Ancien Testament, jusque-là l'Éternel nous a secourus, hein, et ça a donné le nom qu'on a appelé Eben Ezer, n'est-ce pas? Et jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Et je le disais le mardi dernier, pendant ces périodes de fin d'année, j'aime être attentif, enfin, je suis toujours attentif, mais j'aime être attentif un peu plus à tous les textes bibliques que j'écoute, que je lis, ou auxquels je suis exposé. Et il y a trois mardis ou deux mardis de cela, c'est Émile qui était de présidence à la réunion du soir le mardi. Et l'un des textes qu'il nous a donné m'a saisi en fait. Et c'est le psaume 46. Le psaume 46. Et j'aimerais le lire pour introduire ce temps de louange et d'adoration, ce culte à l'Éternel. J'aimerais introduire ce culte avec ce psaume 46. Est-ce que quelqu'un veut faire la lecture avec nous ce matin de ce psaume? Et si la personne se sent même bien, et je sens que vous vous sentez bien, elle peut venir ici au micro pour lire ce psaume avec nous. Elle pourrait rester à sa place, mais comme aussi on enregistre le culte, voilà, ça serait bien que la personne vienne au micro pour lire avec nous ce psaume. Regarde, je t'apporte le micro. Vas-y, tu peux monter là. Très bien. Je t'ai dit, ça va aller. Hop, voilà, c'est très bien. Tout entier.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent et écument et branlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et ne chancelle pas. Dans le secours, dès l'aube du matin, des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. La désolation qu'il a mise sur la terre, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume le feu par les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute route.
Si vous n'avez pas la capacité de retenir tout ce psaume, vous pouvez retenir au moins les deux premiers versets. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Alors que nous sommes rassemblés pour te célébrer et te louer, nous voulons te demander pardon, car nous sommes des êtres pécheurs. Le péché s'attache à nous si facilement parce que notre nature pécheresse est encore là. Mais tu nous donnes cette opportunité de nous approcher de toi, de te demander pardon et de recevoir de toi le pardon de nos péchés. Parce qu'en Jésus-Christ, tu pardonnes aux humains lorsqu'ils se repentent. Et par son œuvre à la croix, tu nous sanctifies, tu nous purifies, parce que sa vie a été donnée pour nous, parce que son sang a coulé. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, et que par l'Esprit de Dieu ce matin, poussé et animé par le Saint-Esprit, que notre louange soit comme un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Nous voici rassemblés. Nous voici en tant qu'Église devant toi pour te célébrer. Et nous n'avons qu'un seul désir, c'est que cette louange et cette adoration soient comme un parfum de bonne odeur pour toi ce matin. Béni sois-tu, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter, à louer le Seigneur ensemble. Est-ce que pour toujours ta vie est cachée en Jésus? La Bible dit que nos vies sont en Christ et Christ est en Dieu. Qui pourra nous arracher de l'amour de Jésus-Christ? Gloire soit rendue à notre Dieu. Devant le trône de l'agneau, un jour, nous y serons. Pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est notre espérance. L'apôtre Paul dit, si nous avons une espérance à cause des choses de la terre seulement, nous sommes bien malheureux. Mais notre espérance, elle est ici, mais elle est aussi là-bas. Gloire à Dieu. Devant le trône de l'agneau. Et devant ce trône, Dieu fait des choses dans nos vies, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse, on voit tous ces saints qui sont devant le trône et qui demandent justice à Dieu. Et il y a tous ces saints qui louent aussi le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et ce dernier dimanche de l'année, nous voulons témoigner de ce que Dieu a fait, de comment Dieu continue de parler dans nos cœurs et dans nos vies. Et je vous demande juste de vous asseoir. Et je vais inviter Émile. Il va partager ce qu'on va appeler un témoignage, mais un témoignage du fait que Dieu continue de parler et de nous révéler des paroles. Est-ce que Dieu le fait dans ta vie, mon frère? Dieu parle au travers de la parole de Dieu. Dieu parle au travers de situations. Et Dieu, parfois, il nous donne des paroles. Et c'est lui seul qui sait comment il nous les donne. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est que tout ce que nous recevons est conforme à la parole de Dieu. C'est ça le critère. Émile.
Bonjour à tous et à toutes. Avant ma conversion, j'ai eu l'occasion de partager la Bible dans ma famille, parce que ma sœur a épousé quelqu'un qui est adventiste. Donc je connais comment ça se passe. Nous avons fait des études ensemble et nous avons partagé la parole. Et puis, bon, je n'arrivais pas à m'accorder avec la pensée, surtout dans le livre des Galates. Et puis, bon, je me suis séparé des études. Et après, mes beaux-parents se sont convertis, nous avons été en vacances. Et là, vous savez, quand ils étaient déjà âgés, on pouvait parler que de ça. Bon, j'ai dit, mais on connaît, je sais, nous savons. J'étais avec Monique. Hein. Et puis au mois d'août, pendant nos vacances, bon, voilà, les vacances se sont achevées. Je suis parti. Et puis un jour, mon premier rêve que je fais, j'entends Hébreux 11, 1. Vous connaissez ce verset? Moi, je dis Hébreux, bon. J'étais surpris de rêver un verset de la Bible, d'entendre ça. Et j'ai été vérifié, vous savez, c'est le fameux verset qui dit, hein, qui c'est qui connaît? Voilà. Et j'ai compris que, je n'avais pas encore saisi, réalisé qu'est-ce qui se passait, mais j'ai compris que Dieu voulait me faire comprendre que c'est par la foi. Première chose. Et puis, ça n'a pas cessé, j'ai rêvé plusieurs versets, comme ça, jour après jour. Et je lui dis, ah, tiens, je vais marquer tout ce que je rêve parce qu'on ne peut pas y penser, on ne peut pas aller garder ça. On n'a pas la capacité de se souvenir. Et puis, bon, voilà. Mais ce que je vais dire, ce sont les paroles que j'ai reçues, quelques-unes, parce que ça a commencé en 90, hein, 86, 87, 88. Mais je vais vous donner quelques-unes qui m'ont vraiment encouragé pour voir que Dieu est vivant et que Dieu parle encore aujourd'hui, comme il veut. J'entendais ces choses, la première chose, une des choses que j'ai entendues, il a réponse à tout, j'ai compris. Prends ma misère, je me conduit à toi. Le pauvre s'humilie. Quand vous réglez vos comptes, ne rouspétez pas. Et puis, j'ai entendu des chants aussi, j'ai eu l'occasion d'entendre des chants, mais un chant avec une musique, ça n'existe pas sur la terre. Vous savez, quand c'est les choses de Dieu. Et ce chant, c'était « Salut berger, je suis avec toi ». Un jour aussi, je rêve Apocalypse 3. Et puis, Il a été dit, sur les trois faits, nous avons notre appel. Bon, ça aussi, il faut aller voir, comprendre. Hein. Ensuite, demander le courage de sa volonté. Encore une parole. L'homme parle au soleil, il ne répond pas. Que par le Fils soit la vie et que passe la vie. Marcher dans la paix du Seigneur, une vie sans tristesse. La Bible est la volonté de Dieu. La foi est une loi qui signifie être entraîné. Louange, 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 Jésus-Christ est le meilleur. Si nous sommes là, c'est par l'amour du Seigneur. Rassemblé par l'Esprit. Si vous demeurez dans vos péchés, vous ne pourrez pas atteindre la bonne nouvelle. La volonté de Dieu l'a demandé chaque matin. La religion, ce n'est pas les catholiques, les évangéliques, les pentecôtistes, les juifs, mais c'est l'Église de Jésus-Christ. Et un jour, j'entends une voix qui résonne comme du tonnerre et qui dit « Je suis l'Éternel ». Encore ces paroles, Jésus dit de le suivre parce que sa parole est pure. Dieu veut et peut t'aider si tu es libre. Qu'est-ce qui est libre? Libre, qu'est-ce qu'être libre, pardon? Libre spirituellement. Comment spirituellement? À la gloire de Dieu. Le cœur de mon âme appartient à Dieu. Tout ce que Dieu espère est en Jésus-Christ. L'Éternel Dieu garde des cieux. J'ai besoin de toi. Je t'ai oint. C'est sur le premier qu'est basée la foi qui communique la foi. Qu'est-ce qui caractérise l'enfant de Dieu? Il a la vocation céleste. Il est né de nouveau. Je ne vais pas aller plus loin, puisque ça c'était jusqu'en 93. Et jusqu'à aujourd'hui encore, Dieu parle. Une dernière parole. Notre avenir est préparé. Amen. Voilà, quelques mots d'encouragement pour savoir que Dieu parle. Et Dieu est vivant. Je pense que Dieu vous a déjà parlé, dit quelque chose. Mais c'est pour vraiment réaliser que Dieu est vivant dans nos vies. Amen.
Bien-aimés, vous le savez, et l'apôtre Paul le dit souvent, l'apôtre Pierre aussi, il dit, vous le savez, mais si je le dis, c'est pour votre salut. Il y a des choses que nous savons, mais que Dieu se plaît à nous répéter pédagogiquement, pour que soit lorsque nous l'avons peut-être oublié, que nous nous en souvenions, pour que lorsque nous ne faisons pas attention, que nous puissions être attentifs. Le Dieu dont nous parlons est un Dieu vivant. Il est vivant au travers de sa parole et de tous les moyens de communication dont il nous fait part. Je vous invite donc à le célébrer, ce roi dans sa splendeur. Je vous invite à vous tenir debout pour chanter la splendeur de notre Dieu. Qui dit dans l'épître aux Éphésiens, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez contempler combien cet amour est grand en hauteur, en profondeur, en largeur, en circonférence, pour que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je prie ce matin que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs et qu'il laisse et que nos cœurs laissent l'Esprit de Dieu nous remplir de la présence de Dieu, bien-aimé. Nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que donc nous devons laisser l'Esprit de Dieu totalement et pleinement nous rendre ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Veuillez vous asseoir. Et justement, il y a une de ces enfants qui veut témoigner ce matin de ce que Dieu a fait pour elle. Nous sommes dans un culte où nous voulons louer Dieu au travers nos chants, nos prières, mais aussi rendre témoignage. Tu veux venir par ici ou tu veux qu'on t'envoie un micro, Tina? Qu'on t'envoie le micro? Voilà, donc Tina va partager avec nous.
Oh.
Oui, Dieu est grand, n'est-ce pas? Il est grand, notre Dieu. Même si tous les jours, nous n'avons pas ce sentiment-là. C'est bon. Voilà, Tina.
Bonjour à tous.
Bonjour, Tina.
Aujourd'hui, c'est pas trop la forme. Mon cœur, je sais pas où il veut partir. Il s'affole. Il veut s'en aller quelque part. Mais
non, Jésus.
Mais pas m'ont emmené ici. Alors,
amen.
Merci, Seigneur.
Gloire à Dieu.
Alors, Émile a donné son témoignage. Moi, je suis née dans une famille catholique. Et nous ne sommes pas nombreux à être enfants de Dieu. Et ben, j'étais déçue par un prêtre. Je lui ai posé une question et il m'a dit, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. 8 ans que j'avais. Ça m'a déçue. Mais j'ai continué quand même à aller à l'église. Et puis, nous sommes venus ici avec mon époux. Le Seigneur l'a rappelé à lui. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, je vais t'emmener quelque part. Tu vas voir, tu seras bien.
Ouais.
Ceux qui viennent ici depuis quelques années, les ont connus, Shérif et Gilberte. Et donc, je suis venue, j'étais bien reçue, mais je ne comprenais rien de ce qui se passait. Mais les chants me plaisaient. Il y avait beaucoup de chants. Alors, je revenais. Après les messages, je disais, mais c'est pas possible, ma fille, tu es maso. Tu viens, c'est comme si tu recevais des coups de marteau. Mais tu y retournes quand même. Mais parce que j'étais à la recherche de quelque chose. Ma vie était vide. Et puis, un beau jour, Émile, lui, le Seigneur lui a parlé. À travers la Bible, moi c'est un cantique qui m'a touchée. Tel que je suis, tu viens à moi. J'avais perdu mon mari 4 ans auparavant et j'en voulais beaucoup à Dieu. Je dis c'est pas possible, il va pas me pardonner parce que vraiment j'ai pas été gentille avec lui. Et j'arrive ici le dimanche et tel que tu es, tu viens à moi. Le Seigneur a touché mon cœur par ce cantique. Et depuis 1985, je viens ici.
Jésus.
Nous sommes passés par les eaux ensemble. Monique et Émile et moi, il y en a d'autres qui ne sont plus ici. Et depuis, je suis là. Bon. C'est petit à petit que le Seigneur nous permet de grandir à travers sa parole, les messages, les exhortations, et puis les frères et les sœurs. Et puis, 2017, je me retrouve hospitalisée à l'intercommunal. Insuffisance cardiaque, décompensation cardiaque. J'ai travaillé en cardiologie. Pas une fois, ça ne m'est venu à l'idée que je souffrais de ça. Ce n'est pas parce que j'ai fait comme l'autruche. Je ne me suis pas rendu compte de ça. Et c'est Cindy qui me dit, qui me prend un rendez-vous, il dit à son père, tu vas l'emmener à l'interco. Moi, pour moi, je vais dans une consultation.
Ordinaire.
Le médecin me, le médecin me dit, non, Madame Ruiz, vous ne rentrez pas chez vous ce soir, je vais vous trouver un lit. Je lui dis, mais je ne suis pas venue pour être hospitalisée. Il me dit, vous croyez que je peux vous laisser rentrer comme ça chez vous? Ce serait non-assistance de personnes en danger. Donc, je me suis retrouvée à l'interco. À l'interco, ils ont fait un tas d'examens. Ils ont trouvé, c'était quelque chose que j'avais au cœur, mais il n'y a pas de cardiologue à l'interco. Donc, rien n'a été fait. Je vois quand même, comme je souffre du diabète, je vois un diabétologue qui me prescrit un médicament. Je prends ce médicament là pendant quelques temps, je me retrouve hospitalisée à l'intérieur à Mondor. J'appelle Anise, elle est au culte. Je lui dis, il faut que tu viennes, je ne suis pas bien. À cause de ce médicament. Tu es au courant? Avec une, je vais me coucher le samedi soir et je me retrouve avec un hématome. Quand elle appelle le sang, on lui dit, ben non, elle a reçu un coup. Quel âge qu'elle a? Elle dit, ben elle a 75 ans. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas tombée, qu'elle n'a pas reçu? Elle dit non, et puis elle me tâte. Je lui dis, mais il ne se déplace pas. L'autre répond, non, on ne se déplace pas, on va envoyer une ambulance. Donc, les ambulanciers arrivent. Anise m'accompagne à Mondor. Hospitalisé. Et c'est là que le nécessaire a été fait. Mais j'ai aucun traitement pour le cœur. Hein. Et je n'ai. Ils ont arrêté le médicament, ça s'appelle un anticoagulant. Alors c'est comme si j'avais une épée de Damoclès sur ma tête. Parce que je pouvais avoir un caillot qui aurait migré soit dans le cerveau ou au poumon. Je sors d'Henri Mondor et je vais voir, Anise m'accompagnait partout, et je vais à l'échat. Je tombe sur un cardiologue et qui me dit, mais ça fait combien de temps que vous êtes comme ça? Alors je lui dis, voilà, ça fait tant de temps, j'étais à l'intérieur. Je lui raconte un petit peu et il me dit, écoutez, je vais faire le nécessaire. Et donc ça devait se passer un mercredi ou un jeudi. Le lundi, le téléphone sonne. Madame Ruiz, oui, vous avez une convocation pour aller sur un hôpital de Palaiso. Vous verrez le docteur Intel. Donc, je dis, comment je vais faire? Incapable de marcher toute seule, il fallait que quelqu'un m'accompagne. Anise travaillait, c'est la sœur Gertrude qui m'a accompagnée. J'ai pris un VSL. J'arrive là et donc je passe écho, Doppler, enfin, toute la batterie. Ouais. Et on me dit, ben vous allez voir docteur Intel. Donc je monte, en attendant le docteur Intel, la secrétaire vient me voir. Ben écoutez, puisque vous êtes là, vous allez voir celui qui te fait, qui t'endort là.
L'anesthésiste.
Je dis, mais je ne suis pas venue pour voir un anesthésiste. Elle me dit, oui, il est dans le coin. Donc je vais le voir et il m'a dit, vous pesez combien de kilos? Enfin, les questions qu'on te pose avant. La soeur Gertrude, là, je lui dis, mais je ne suis pas venue pour ça. Elle m'a dit, écoute, attends. Alors, je vois l'anesthésiste, la date est fixée pour l'intervention. Et sur la même lancée, le chirurgien vient me voir et puis il me dit, voilà, vous allez être opéré. Vous savez, je lui dis, mais qu'est-ce qui va se... Ben, on va vous boucher quelque chose pour, si jamais il y a un caillot
ouais,
que ça ne monte pas au cerveau, que ça ne va pas, ça n'aille pas au poumon. Donc, je suis donc, la date est fixée. La sœur Josiane m'accompagne le jour de l'hospitalisation. Elle se rappelle. Et je rentre le mercredi, je ressors le vendredi. Donc, ça ne dure pas longtemps, puisque ça s'est fait sous anesthésie locale. Et le Seigneur a permis que des hommes fassent des études pour nous soigner, et on ne peut que le remercier pour cela. Je ressors et je suis suivie au centre médical. Je tombe sur quelqu'un qui me dit, ben, écoutez, celui qui avait fait tout le nécessaire pour que le caillou ne migre pas, il était parti du centre. Donc j'en prends un autre. Qui, Anis était là. On est sortis, on était choqués toutes les deux, puisqu'il dit, ben, vous avez quel âge, Madame Ruiz? 75 ans. Ben, écoutez, ça va être une maladie chronique. Alors, on lui dit, ben, il me reste à mourir, alors. Ben, il faut bien mourir un jour ou l'autre. On ressort. Je vais voir la secrétaire, je lui dis, il n'y a pas moyen de faire quelqu'un d'autre. Anis me dit, il faut que tu vois, et tu prends un autre avis. Donc, je tombe sur une dame. Elle me voit, elle me donne un rendez-vous. Et puis, mais elle me dit, c'est désolant, je pars en congé de maternité. C'est vous dire comment le Seigneur prend soin de ses enfants.
Ouais.
À travers toutes les maladresses, le Seigneur était là. Malgré tout, il a permis que cette dame revienne de maternité et elle a pris les choses en main.
Jésus.
Bon, on découvre ce que j'ai, mais je suis diabétique. Mes reins sont en piteux état à cause du diabète depuis des années. Le cœur, il n'est pas, il est pas bien non plus. Donc, ils hésitent à me faire subir une intervention. Et puis, il y a mon jeune âge.
C'est vrai, Tina. T'as raison.
Tout ça rentre... Alors, on me dit, ben, écoutez, il n'y a qu'à Mondor qu'on fait ça. Je lui dis, ça fait combien de temps que vous faites ça? Depuis 2017. J'ai dit, ben, écoutez... Jusqu'à présent, le Seigneur, il a mis sa main.
Amen.
Il me tient. Il va continuer à le faire.
Alléluia.
Si l'opération doit réussir, elle va réussir. Si elle ne doit pas réussir, c'est que Dieu aura décidé de me rappeler à lui.
C'est ça.
Donc, j'y vais confiant. Et malgré toutes les maladresses, j'ai jamais douté. Le Seigneur a permis que j'ai jamais douté de lui.
Seigneur.
De compter sur lui, et puisque à chaque fois que je croyais que c'était bon, paf,
il y a quelque chose.
Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais jusqu'à présent, j'ai tenu bon. Et puis le Seigneur avait mis, je suis dans une famille, enfant de Dieu.
Alléluia.
Le Seigneur avait pourvu toutes choses.
Merci Seigneur.
Et je ne peux que le remercier et Alléluia. Le louer.
Gloire à toi.
Pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Au mois de juin, j'ai subi une intervention. Ils ont mis deux clips. Ils appellent ça mitra clip. C'est comme deux petites pinces à linge. Mais il y a encore une fuite. J'ai eu une consultation au mois de décembre. La fuite, elle est toujours là, puisque ce sont les valves qui ne vont pas bien. Je suis trop âgée pour qu'on... Ils ne veulent pas la remplacer. Bon, ils ont rafistolé les deux qui fuient. Il y a l'autre qui fuit. Donc...
Jésus, tu es présent.
C'est stable. Vendredi, je rentre, je trouve une tête de Rimodo. Je dis, qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Parce qu'on m'avait dit, le 16, on vous verra dans 9 mois. Je l'ouvre, on m'a dit, donc j'ai une convocation pour le mois de juin. Alors ça, je peux vous dire, c'est IRM cardiaque. J'apprécie pas trop. Et écho-transœsophagienne. Ce sont deux examens qui sont très, très, très désagréables. Mais j'en ai déjà fait deux. Ben, s'il faut en faire d'autres, jusqu'à... On va continuer.
Merci, Seigneur.
Parce que le Seigneur, il est là et puis il précède, il pourvoit.
Alléluia.
Il fait tout pour ses enfants.
Merci, Seigneur.
Et nous ne pouvons que le louer, le remercier.
Alléluia.
Et le remercier pour, parce que je suis ici depuis 85.
Ouais.
Et je peux vous dire que je le témoigne souvent. Je vois ce que Dieu fait. Pour nous sommes son église.
C'est ça.
Ce ne sont pas les murs.
C'est ça.
Ce qu'il fait pour chacun de nous.
Alléluia.
Et nous ne pouvons que le remercier et le louer.
Gloire à toi,
pour
Seigneur.
Pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fera.
Merci Seigneur.
Et continuer à le bénir. Alléluia. Et à le remercier, parce que nous avons eu pas mal de serviteurs qui sont passés. Le pasteur Billy notamment. Maintenant c'est le pasteur Oulaï, le couple pastoral. Le Seigneur, il sait ce qu'il faut faire et quand il faut le faire.
Amen.
Et c'est à nous de nous attendre à lui, de Alléluia. Ne pas se poser des questions, de ne pas douter, parce que c'est vrai que nous sommes toujours impatients, nous voulons toujours aller vite. Mais le Seigneur m'a appris à travers, depuis 2017, à attendre. Il m'a appris la patience.
Jésus.
Et c'est ça que je partage avec, quand j'ai l'occasion d'ouvrir la bouche.
Mmh.
Alors que notre Seigneur soit béni et glorifié, et qu'il nous bénisse tous en Jésus-Christ son Fils.
Dieu te bénisse, Tina.
Merci.
Dieu te bénisse, Tina. Les dimanches, quand nous nous rassemblons, c'est pour que Dieu puisse être glorifié, n'est-ce pas? Et des témoignages comme ceux-là de la fidélité de Dieu dans la vie de quelqu'une. Pour ceux qui connaissent Tina, elle a beaucoup de défauts. Et certains d'entre nous n'en ont pas. Non, on a tous nos défauts. Mais Tina a des qualités qui, dans cette maladie dont elle parle avec assez de simplicité, c'est une maladie lourde, frères et sœurs. C'est une femme qui vit seule avec une maladie lourde. Mais quand vous allez la visiter, elle a toujours la patate. Et tu te dis, mais comment elle fait? Comment elle fait? Mais c'est son Dieu. C'est son Dieu. Elle connaît ce Dieu-là. Elle le connaît de façon intime. Et nous voulons chanter avec Monique qui va venir. On va chanter avec des cris de joie. N'est-ce pas? Nous voulons célébrer Dieu avec des cris de joie. Celui qui est fidèle et qui nous tient. Alléluia. Témoignage chanté, parce que Monique aura aussi pu rendre témoignage de tout ce que Dieu fait. Nous continuons de célébrer le Seigneur. Et j'inviterai maintenant Janine à venir aussi célébrer Dieu avec nous. Acclamez Dieu, gens du monde. C'est un culte aujourd'hui partagé, n'est-ce pas? Ce dernier culte. On va chanter ensemble.
Il est saint, il est saint, il est saint, si grand, si, on redit qu'il est saint, il est saint, il est saint. proclamer qu'il est majestueux. Majestueux, 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 si grand, si grand. Il est redoutable, 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 si grand, si grand. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, si grand, si grand. Il est saint, 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 si grand, si grand, si grand.
Merci de nous donner le proclamer que tu es si grand, car c'est ce que tu es. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre. Tout l'univers est régi par toi. Tu es le maître des temps et des circonstances, notre Dieu. Tout dépend de toi. Tu as dit que tout a été créé en lui, pour lui et par lui. Jésus, Sauveur du monde. Fils de Dieu, venu avec puissance. Homme, comme nous donnons sa vie à la croix pour racheter notre péché. De par sa mort, mais bien plus de par sa résurrection, il nous donne une nouvelle vie. Il nous relève de la mort spirituelle. Alléluia à ce Dieu si grand. Alléluia à l'agneau qui a payé de sa vie. Alléluia à celui qui n'était pas pécheur, mais qui a pris nos péchés, dont la mort n'a pas pu retenir la vie. Il est ressuscité le troisième jour. Il est vivant. Il a été glorifié. Il est au ciel. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Notre rédempteur est vivant. Alléluia. Celui qui s'appelle Amour est notre Dieu. Tu es notre Dieu. Et nous te célébrons. Tu es si bon. Tu es si merveilleux. Tu es si proche de nous. Tu nous connais tellement bien. Tu connais chacun de nous. Et tu aimes chacun d'entre nous. Parle encore ce matin. Parle à nos cœurs. Dis-nous quelque chose. Fortifie-nous. Reprends-nous peut-être. Mais tout cela, tu le fais par amour. Parce que tu es un père qui aime ses enfants. Tu es comme une mère qui aime ses enfants. Tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à méditer la parole. Je vous l'avais dit dimanche dernier, nous continuons de méditer ce texte d'Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Et ce que je vous avais proposé comme titre, c'était celui-là, heure de bilan pour l'avenir. En es-tu conscient? Comment continuer ta vie? Et j'avais dit que pour moi, le bilan n'est pas quelque chose de négatif. Le bilan, c'est un arrêt. Et je regarde ce que Dieu a fait. Et je bénis pour tout ce qu'il a fait. Et je regarde ce qu'il est capable encore de faire avec moi. Et là où peut-être j'ai eu des limites. Et lui dit, Seigneur, c'est pas fini. Tu es capable. Je m'attends à toi. Booste-moi. Et Jésus s'est révélé à l'apôtre Jean. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Ça s'appelle Apocalypse, mais on pourrait dire simplement révélation, comme je l'ai dit. Jésus révèle les choses de la fin des temps. N'est-ce pas? Et il parle, commence à parler à des églises, à cette église dont nous avons parlé. Et nous avons focalisé notre méditation ces deux derniers dimanches sur celle, la lettre qu'il a écrite à l'église d'Éphèse. Hein? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Nous l'avons déjà dit, c'est un texte encourageant à la fois. Encourageant parce que Dieu aime parler à ses enfants, à son église notamment. Et nous avons expliqué que quand le texte dit « Je suis celui qui se tient là au milieu des sept églises », c'est Jésus. L'église est la propriété de Jésus-Christ. L'église est à Jésus-Christ. Nous sommes à Jésus-Christ. Nous sommes unis à lui. C'est notre grand frère. C'est notre Dieu. On a une relation tellement complexe avec lui. Il est à la fois notre Dieu, il est à la fois notre aîné. Parce qu'il nous aime. Et toutes ces relations se mélangent dans notre relation à Dieu. Et c'est ce qu'il exprime en disant, je suis celui qui se tient au milieu des sept étoiles, n'est-ce pas? C'est Jésus, n'est-ce pas, qui sonde les choses. Vas-y sur la diapo d'après, s'il te plaît. Et ça, c'est ce que nous avons déjà dit. Parlant à l'église d'Éphèse, il leur adresse un compliment. Le compliment qu'il leur adresse, c'est l'effort. Cet effort qu'ils ont, cette persévérance qu'ils ont dans la parole de Dieu. Hein, je l'ai dit, quand on lit la lettre aux Éphésiens, on est enrichi de tout ce que Jésus, au travers de l'apôtre Paul, donne comme compliment à cette église. Et l'apôtre Paul a passé 3 années dans cette église. Il les a formés publiquement. C'est une église qui aime la parole, qui est solide dans la parole de Dieu et qui travaille à défendre le bon enseignement de la parole de Dieu, qui refuse les mauvaises doctrines. Et je pense que dans ces temps précis, nous devons prendre l'exemple de cette église. Surtout quand nous allons sur Internet. Surtout quand nous allons sur Internet. Sur Internet aujourd'hui, en termes d'enseignement biblique et de vidéos bibliques, il y a du bon et il y a du moins bon. L'idée, ce n'est pas de ne pas aller sur Internet. Ça serait trop passage de dire ça, parce que c'est un outil comme les autres. L'idée, c'est rassurez-vous que vous êtes solide bibliquement et que vous puissiez être capable de trier le bon du mauvais. C'est ça. Et l'église d'Éphèse était capable de faire ça, de reconnaître le bon enseignement et le mauvais enseignement, parce qu'ils avaient été formés. Ils étaient aussi patients. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est Tina. Il y a cette patience. Dans l'épreuve, les églises au premier siècle n'ont pas été ménagées. Il y a eu la persécution. Et c'est des églises qui ont été bâties dans l'épreuve, dans la souffrance, mais qui ont tenu bon, qui ont persévéré. Et le Seigneur loue l'église d'Éphèse pour cela. Par contre, il dit, je suis un peu triste, l'église d'Éphèse. Il y a un relâchement par rapport à ce premier amour, n'est-ce pas? Et cette tristesse est là. Et Jésus qui parle au travers de l'apôtre Jean, et qui dit, écrit, il dit à cette église que je suis triste parce qu'elle a perdu son premier amour. De quoi s'agit-il? Et c'est sur ce reproche, mais bien plus sur l'exhortation et l'encouragement qui suit à la fin de cette lettre que nous allons nous arrêter pour les quelques minutes qui nous sont imparties. Voilà. D'abord, cet amour pour Dieu. Le mot qui est employé, c'est le mot qu'on a appelé, nous, les agapés. Hein. L'agapé, c'est un mot, agapé, c'est, vient d'un mot grec qui exprime toujours l'amour qui vient de Dieu, l'amour profond que Dieu a pour les humains. Et c'est ce même terme qui est utilisé ici. C'est une intimité, un amour profond avec Dieu. Et pourquoi Jésus fait ce reproche? Parce que 35 années avant, c'est-à-dire lorsqu'on a l'épître aux Éphésiens, lorsque l'apôtre Paul, dans les livres des Actes, bâtit cette église par Dieu, il les félicite. Et on peut voir cette félicitation dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 16, où il le dit clairement. Il est fier de la foi de cette église et de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Cette force de l'amour, il les félicite, il dit « Je loue mon Dieu, à chaque fois que je fléchis les genoux, je loue Dieu pour votre foi et pour votre amour. » Voilà que 35 ans a passé et que cet amour n'est plus au beau fixe. Et Jésus dit, écris à l'église d'Éphèse et dis-leur qu'ils ont perdu ce premier amour. Ils avaient gardé, certes, le bon enseignement de la parole de Dieu. Ils étaient encore dans le service de Dieu. L'église était en activité. Et parfois, j'ai été très souvent secoué quand je lis cette lettre. Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas ça que tu nous demandes. Est-ce que tu ne nous demandes pas de connaître ta parole, de la garder dans notre cœur? Est-ce que tu ne nous demandes pas de te servir dans l'église? Mais ce n'est pas ça ton amour. Et cette lettre m'intrigue. Parce que cette église avait la parole, la bonne. Elle servait Dieu. Et pourtant, Dieu lui dit, ce que j'ai à te reprocher, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et quand on regarde de près ce premier amour, c'est quoi ce premier amour, Seigneur? C'est quoi ce premier amour? Et beaucoup de commentateurs disent, pour nous rappeler de ce premier amour, pour ceux qui se sont convertis, rappelons-nous le jour où nous sommes convertis, les moments qui ont suivi notre conversion, le zèle, la joie, la paix. Il y avait une sorte de quelque chose de tellement extraordinaire, de tellement beau, de tellement profond, d'une intimité qu'on venait de découvrir avec ce Dieu que nous ne connaissions pas, qui nous portait tellement. Et la question qui est posée, c'est: est-ce que c'est le même zèle aujourd'hui? C'est ce que Dieu demande à Éphèse. Ce zèle, tu l'as perdu. Ce zèle, tu l'as perdu. Si ce zèle pour Dieu est perdu, la conséquence tout de suite, c'est que l'amour fraternel aussi s'en fait ressentir. Donc il dit, tu as perdu ce zèle pour moi. Comment je veux dire? Tu as perdu ce feeling, cette émotion spirituelle qui te faisait vibrer au fond de toi pour moi, de sorte que même dans ta relation à l'intérieur de l'église, les choses ne sont plus comme il y a 35 ans. Oui, on peut dire, oui, le temps joue toujours contre nous, mais ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Parce que la Bible dit que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est son église, n'est-ce pas? Et donc, Dieu dit ça à Éphèse, ce déficit de l'amour fraternel qui s'est refroidi. Et on explique que ça a pu être refroidi à cause aussi des épreuves que cette église a traversées. Il y a eu tellement de persécutions. Mais en même temps, quand on compare à d'autres églises qui ont vécu aussi la persécution, elles n'ont pas perdu cette communion fraternelle. Et si je m'arrête 2 secondes, qu'en est-il de l'état de notre communion fraternelle? Il ne s'agit pas de nous culpabiliser, ce n'est pas le but ce matin. Le but ce matin, comme j'aime à le dire, c'est que nous progressions ensemble. Mais si on ne s'arrête pas pour faire un bilan, on ne peut pas savoir si on progresse ou si on a stagné, n'est-ce pas, frère? On dit souvent, si tu as la tête dans le guidon, tu ne peux pas faire une bonne analyse. Et parfois, on a besoin de lever la tête pour voir où nous allons. Déjà pour voir d'où nous venons, n'est-ce pas? Pour voir d'où nous venons. Alors, ça c'est Éphèse. Qu'en est-il de nous? Nous devons nous rappeler avec régularité que l'un des versets forts que Jésus lui-même nous a donné, c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La répétition de tout, à chaque fois, dans chaque brin de ce verset, il aurait pu dire: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta pensée, de ta force. Mais à chaque fois, il ajoute: de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ce tout ici qui parfois commence à se vider. Se vider, n'est-ce pas? Je l'ai dit, souvenons-nous de cet amour que nous éprouvions pour Christ lorsque nous nous sommes convertis. Il y avait cette joie. Pendant que j'en parle, je me souviens, je pense que pendant que j'en parle, vous vous souvenez aussi de la façon dont vous étiez portés. En même temps, on peut dire, oui, mais on était jeunes, oui, les choses ne peuvent pas toujours être pareilles. Mais en même temps, pourquoi Dieu dit ça et fait si les choses ne peuvent pas être pareilles? Pourquoi il peut leur reprocher quelque chose 35 ans plus tard? Parce qu'il sait que c'est possible de garder ce premier amour. Je ne le dis pas pour vous, je le dis d'abord pour moi. Et pendant que je préparais cette prédication, ces deux derniers dimanches, c'est vrai que j'ai passé des temps. Moi, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai des choses que j'ai perdues. Il y a des choses que je ne fais plus comme je le faisais avant. Et ce n'est même pas les temps, ce n'est pas les circonstances, parce que les circonstances, bah, c'est Dieu qui me les a données aussi. Si je dis, c'est parce que j'ai une famille avec des enfants, ce n'est pas vrai. Donc, mes enfants sont une malédiction. Parce que parfois on peut dire on n'a pas le temps parce qu'on a une famille, mais ce n'est pas vrai, parce que c'est une bénédiction que Dieu nous fait. On peut dire, ah, c'est à cause de mon travail. Ton travail, c'est une malédiction. Non, c'est une bénédiction. Comment cette bénédiction peut être la cause de la baisse de ton amour pour Dieu? Ce n'est pas possible puisque tu as prié et que Dieu t'a donné un travail. Vous voyez comment on peut trouver des raisons qui ne sont pas justes pour nous dédouaner d'un vrai examen de cœur. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure, comment Dieu fait cet examen de cœur. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Moi, j'ai envie, enfin, j'ai pas envie, je prie que lorsque cette année nouvelle va commencer, et on en a parlé un peu avec mon épouse, on a prié pour ça, on a partagé, on aimerait rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Parfois, ça a de gros thèmes, dimension. Ça paraît énorme, mais non. Ça veut dire juste, on veut... Ah. On veut être simple comme avant. Parfois, quand on grandit, on se complique la vie. Et on se complique la vie aussi spirituelle. Et parfois, il faut être simple avec Dieu. La simplicité ne veut pas dire la légèreté. C'est deux mots différents. La simplicité veut dire, voilà, Dieu, il existe, il est vivant, il veut une communion avec toi, il veut une relation avec toi. Parfois, dans la prière... On calcule, on n'a plus le temps, on fait les choses vite fait, alors qu'avant, ah, tu prenais juste le temps de prier ton Dieu. Tu avais ce temps-là pour lui. Et tu prenais du plaisir à te souvenir de ton frère, de ta soeur, à dire les sujets d'un tel, et de louer ton Dieu. Maintenant, c'est vite fait. Seigneur, tu te souviens de Monique. Amen. Ah, bah oui, puisque Dieu sait tout. Donc j'ai juste besoin d'évoquer le nom de Monique. Mais non, pourquoi quand Jésus prie, il prie avec des détails? Pourquoi quand l'apôtre Paul prie, dit quand je fléchis genoux, je prie que Dieu fasse ceci, fasse cela, fasse cela. Il aurait pu dire juste, Seigneur, va lire les Éphésiens, tu les connais. Quand je priais avec mon épouse, pour nous, mais on priait, on prenait du temps. On continue de le prendre, mais on a, nous-mêmes, on a constaté, voilà, que ce temps n'est plus là, comme avant. Et qu'on a besoin d'être renouvelé par le Seigneur bien-aimé. Ces bilans ne sont pas là pour nous culpabiliser, ils sont là pour dire, ah, il y a encore de la marche. Allez, progressez. Allez de l'avant. Et celui qui l'a vécu, littéralement, il s'appelle Pierre. Vas-y, s'il te plaît, la diapo d'après. Pierre a vécu cette expérience. Jean, le chapitre 21. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montra à ses disciples depuis qu'ils étaient ressuscités, depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Et lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » On se demande, mais pourquoi Jésus avait besoin de choquer Pierre comme ça? Et on se rappelle que Pierre avait renié Jésus trois fois aussi. À trois moments précis de cette longue journée de l'arrestation de Jésus, Pierre avait renié le Seigneur. Mais bien avant ça, Jésus lui avait dit, Pierre, en répondant à une parole de Pierre, Pierre a dit, Seigneur, je t'aime, moi je suis là avec toi. Tous peuvent t'abandonner, mais moi, jamais. Tu peux compter sur moi.
Et Jésus a dit, Pierre.
Pierre, on va se calmer, Et Dieu lui fait cette révélation. Avant que le coq ne chante, tu m'auras régné trois fois. Mais même si je me mets à la place de Pierre, je pense que Pierre n'avait pas compris ce que Jésus avait dit. Mais quand Jésus dit des choses, ce n'est pas pour qu'on les comprenne sur le moment. C'est pour que quand ça se réalise, que notre esprit s'ouvre. Et c'est là que la grâce de Pierre s'est manifestée. Après le troisième reniement, le texte nous dit qu'il s'est retiré et qu'il a été pris d'un remords incroyable. Il a dit, oups. Et pourtant, Jésus m'avait averti. Mais Jésus avait beaucoup prié pour Pierre. À Gethsémané, lorsque Jésus avait besoin que les disciples soient avec lui, à trois reprises, ils n'avaient pas pu tenir la veillée de prière. Et la troisième fois, quand il est venu, il a dit, Pierre, écoute, tu n'as pas pu, c'est pas grave, mais tu sais, le diable t'a demandé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, affermis tes frères. Jésus, au travers ces trois fois où il teste Pierre, il est en train de rétablir Pierre. Il est en train de le guérir. Parce que Pierre s'était fragilisé lui-même. Pierre n'était plus bien, même s'il était toujours là. Ce n'est pas sa foi qui est en cause, c'est son amour pour Dieu. Puisqu'il est là, il est fidèle, mais son amour a pris un coup parce qu'il a régné le Seigneur trois fois. Et Jésus a besoin de lui dire, c'est moi qui te guéris de cette plaie de reniement, de cette plaie de l'amour. Je te restaure dans ton amour pour moi, n'est-ce pas ? Cet entretien, c'est pour guérir Pierre, n'est-ce pas ? Jésus l'interpelle parce que il a défailli, parce qu'il a failli, parce que son amour a été touché par cette infidélité. Et Jésus a besoin de restaurer son serviteur. C'est pour ça, en même temps qu'il lui pose trois fois la question, en même temps il lui dit trois fois, je te restaure dans ton titre d'apôtre. Tu vas être celui qui va prendre soin de mes brebis. Et Pierre est restauré au travers cette épreuve de l'amour. Je l'avais dit, essayez juste de vous intégrer dans ce texte et d'enlever Simon Pierre et de mettre votre propre nom, vos propres noms de famille et de dire, Jésus dit à Serge, fils de Oulaï, m'aimes-tu plus que ne m'aiment tout cela? Je dirais comme Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pourquoi Pierre dit tu sais? Parce que Pierre a commencé à être sage. Il dit c'est toi qui sais toutes choses. Moi je crois que je t'aime, mais c'est toi qui sais. Si je t'aime comme tu l'attends de moi, c'est toi qui sais. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que tout cela? Pierre ne répond pas. Il ne dit pas, tu sais que je t'aime plus que tout cela, parce que Pierre a compris. À cause de l'épreuve qu'il a subie, Pierre est devenu humble. Parce que bien avant, il a dit, tous vont t'abandonner, mais moi, seul, je vais rester avec toi. Il a compris que ce n'était pas vrai, parce qu'il a abandonné aussi le Seigneur comme les autres. Encore pire, lui, il a régné publiquement. Les autres, ils ont juste fui. Et Pierre a compris qu'il ne s'agit pas de se comparer. Qu'avec Jésus, Jésus prend chacun pour ce qu'il est. Et il ne dit pas, je t'aime plus que les autres. Il dit, moi, je t'aime. Mais c'est toi qui sais. Et à chaque fois, Pierre dit ça. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Que Dieu nous aide bien-aimés. Que cette lettre que l'apôtre Jean nous donne de l'Apocalypse, nous aide aussi à être restaurés, à être rétablis. Vas-y, la diapo d'après, s'il te plaît. Il y a une exhortation de Jésus dans ce texte d'Apocalypse, n'est-ce pas, à la suite. Il dit, souviens-toi. Trois choses. Souviens-toi de quoi? Souviens-toi d'où tu es tombé. D'où tu es tombé. C'est un aspect précis de la vie de l'Église. Ce n'est pas tous les aspects de la vie de l'Église, puisqu'il a fait des louanges à l'Église. Donc il dit, l'aspect dont je te parle, c'est cet aspect, c'est ton premier amour, souviens-toi de celui-là. et répands-toi. Dieu nous appelle juste à reconnaître quand nous sommes faibles ou quand nous tombons, parce que lui, il est prêt à nous donner la main pour nous relever. C'est ça qu'il aime faire. Nous sommes ses enfants, frères et sœurs. Et nous sommes des parents pour la plupart d'entre nous. Même quand un enfant n'est pas toujours correct, nous sommes toujours là pour l'aider à reprendre le chemin dans le bon sens. C'est ce que Dieu fait avec nous aussi. Nous remettre dans le bon sens, sur le bon chemin. Tu es capable encore de pratiquer ton premier amour. Avec Dieu, la cause n'est jamais perdue. Jamais. Il est toujours là. Quelqu'un dit, c'est le Dieu des cas impossibles. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne dis pas, oh, je ne peux plus. Oh, non, laisse-le faire. Fais-lui confiance. Mais implique-toi, engage-toi. Et lui, il sera aussi avec toi pour te relever si jamais tu es tombé. Si jamais il y a des choses, il y a toujours quelque chose, mais il ne s'agit pas de chercher la bête noire sur la pierre noire dans la nuit noire. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste que si, pendant que Dieu donne ce message, là, de façon claire, tu identifies quelque chose dans ta vie, bah, il a besoin que tu lui dises, viens mon secours, je veux passer à autre chose. Cette repentance, n'est-ce pas, à un avertissement. Dieu est un Dieu clair. Dieu est un Dieu clair. Il dit, écoute, ce n'est pas compliqué. Moi, je suis disponible, je vais te relever. Mais sache que je suis un Dieu juste. L'acte que je te reproche, si tu ne te relèves pas de cet acte appelle une conséquence. La conséquence, c'est que je vais retirer ton chandelier de sa place. Tu ne seras plus une église qui brille. Tu seras une église morte. Et l'histoire, on a du mal à encore interpréter ce qui s'est passé dans l'histoire, mais on constate que quelques siècles après, cette église d'Éphèse a été une église importante, avec même un grand concile à Éphèse. Mais après le 5e siècle, l'église et la ville d'Éphèse ont connu un déclin. Et même la région dans laquelle était cette église, depuis le 14e siècle, a été inhabitée. L'une des lectures, c'est que quand Dieu dit quelque chose, bien aimé, il faut être attentif. Parce qu'il est le Tout-Puissant, et ce qu'il veut, il dit, c'est pas que le pécheur meure, mais c'est que le pécheur écoute, qu'il entende et qu'il soit sauvé. Mais s'il s'endurcit, bah, les conséquences seront là. Et jusqu'à aujourd'hui, la ville d'Éphèse, il y a toujours une ville qui s'appelle Éphèse, on n'est pas sûr que c'est le même site, mais ce n'est plus du tout un bastion de la foi chrétienne. Ce n'est plus du tout un bastion de la foi chrétienne. Ce n'est plus du tout un bastion de la foi chrétienne. Ce n'est plus du tout un bastion de la foi chrétienne. Quand Dieu nous avertit, il faut prêter oreille. Il ne faut pas s'endurcir. Il ne faut pas jouer les... Non, il ne faut pas croire que c'est anodin. Non. Il sait, parce que lui, il voit ce que tu ne vois pas. Il veut te prémunir, il veut te préserver, il veut te faire éviter le mauvais chemin. Sois sage, entends la voix de ton Dieu. Sois sage, entends la voix de ton Dieu. Sois sage, entends la voix de ton Dieu. Et on termine. Et il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie. On se souvient que l'arbre de vie, il y avait deux arbres. Hein, dans le jardin, il y avait plusieurs, mais dans le livre de Genèse, il y a deux qui nous sont montrés avec assez de... Donc, il y a l'arbre de la vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et celui qui a causé le péché, c'est celui de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la vie, c'est symboliquement cet arbre dont Jésus parle. Et Jésus dit, dans cette révélation de l'Apocalypse, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cette communion, cette intimité avec Dieu. Il dit, celui qui m'aime et qui manifeste cet amour comme au premier temps, ce zèle constant, régulier pour moi, bah, j'aime ce type d'amour parce que ça me donne d'être en intimité.
Et en ce moment-là, il y a une plénitude de vie et d'amour. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans l'épître aux Éphésiens, que le Dieu, que Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour que vous puissiez contempler, connaître avec tous les saints l'étendue de l'amour de Dieu, sa profondeur, sa hauteur, sa largeur, sa circonférence, pour que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Les scientifiques disent qu'on utilise, je ne sais pas quel pourcentage, mais en fait, on utilise à des pourcentages très bas toutes les capacités de notre cerveau. Parce que notre cerveau, il est doué. Et souvent, on a l'impression que dans la foi chrétienne, nous aussi, nous sommes comme ça. Dieu nous a donné tellement de choses, mais on s'empare de quelques bribes et on est satisfait, alors qu'il a mis tellement de bénédictions. Je prie pour moi, pour ma famille, pour l'Église, pour chacun de vous, que l'année 2000 qui va venir, 2020 qui vient, que nous puissions dire, ah, tu as rempli toutes ces grâces. Je veux vraiment me délecter de tes grâces. Je veux être une chrétienne, un chrétien plein de toi. Parce qu'en l'étant, bah, je bénirai mes proches. Je bénirai ceux que j'aime. Je bénirai même ceux qui ne m'aiment pas. Parce que je serai tellement rempli de toi, Seigneur, et de ton amour. Pour répondre à cette prédication, nous allons chanter. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Dieu m'a tant aimé. Et pendant que nous chantons en réponse à cette prière, j'aimerais aussi que nous puissions faire nos offrandes que nous avons prévues pour aujourd'hui. Je demanderai à deux jeunes filles qui sont avec nous. Je demanderai, elles se connaissent, si elles peuvent. Les deux sœurs, si vous pouvez nous aider à faire passer les carreilles, ce serait une bénédiction pour nous.
M'a tant aimé, pourquoi pas son sang?
l'étendue de ton amour, mais tu nous le révèles jour après jour. Merci de nous donner non seulement de contempler cet amour, mais de le vivre. Merci parce que nous sommes sur le bon chemin, par ta grâce, par ta présence, par la présence de ton esprit. Merci pour ces offrandes que ton Église a apportées pour que nous puissions ensemble continuer à œuvrer pour le royaume. Bénis et donne-nous de les utiliser avec sagesse pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. J'invite Émile.
Nous allons prier, donc je vous demande bien vouloir vous lever afin que nous puissions prier. C'est Dieu qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. Seigneur, tu me feras savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Toi, Seigneur, tu restes le même et tes années ne finiront point. Toi, Seigneur, tu ne retiendras pas, loin de nous, ta miséricorde. Ta fidélité et la vérité nous préserveront toujours. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Et vous asseoir.